Chapitre 108, le commissionnaire de la rue aux Fers. La rue aux Fers, qui anciennement se nommait rue aux Fèvres, était située et est encore située en partie, puisqu'on ne l'a pas entièrement abattue, entre la rue Saint-Denis, où elle avait son commencement, et le marché aux Poirées, et la rue de la Lingerie, où elle avait sa fin. Longeant le nord du marché des Innocents, parallèlement à la rue de la Ferronnerie, passant comme une rivière qui charrie des fruits, des fleurs et des légumes, entre les 100 cabarets échelonnés à sa droite et les 1000 petites boutiques du marché alignées à sa gauche, la rue aux Fers ne manquait pas, à l'époque où nous reporte ce chapitre, d'une certaine couleur, d'un certain pittoresque, qu'on ne retrouvera plus dans notre Paris tiré au cordeau, blanchi, cosmétiqué et correct, qui menace de devenir, comme Turin, un vaste damier, c'est-à-dire une ville à l'usage des Philidors et des Labourdonnais de l'avenir. La foule, au costume bariolé, qui, dès les premières heures du matin, se ruait en bourdonnant dans cette rue, comme un essaim d'abeilles se dirigeant à travers le chemin transparent de l'air vers sa ruche maternelle, présentée, ainsi ombrée d'un côté par les murs noirs des cabarets et éclairée de l'autre par les boutiques à jour, un cachet tout particulier, tout original, qui lui donnait une grande ressemblance avec les foules peintes dans les tableaux des vieux maîtres flamands. Il était 10 heures du matin environ. C'était une de ces matinées du mois de mai où le printemps commence à transparaître, montrant son visage rose, encore voilé des dernières brumes de l'hiver. Le soleil, qui ne faisait point alors pour réchauffer le pauvre monde toutes les façons qu'il fait de nos jours, le soleil, glissant à travers les couches d'atmosphère imbibées de ses jeunes rayons, éclairait dans toute leur beauté naïve les naïades de la fontaine de Jean Goujon. De haut en bas, le marché ruisselait de lumière, et la foule, instinctivement, sans le savoir, en même temps que le troisième dimanche du mois de mars, célébrait la fête du printemps par des cris bruyants et des éclats de rire joyeux comme des chansons. Et il y avait bien de quoi crier, sourire et chanter tout à la fois. Ce marché, gris et noir, d'ordinaire si sombre et si triste durant 6 mois et depuis 6 mois, avait revêtu pendant la nuit sa couronne de roses, sa robe de primevère et son bouquet de violettes. On eût dit le marché aux fleurs. Acheteurs, marchandes, passants, chacun voulait avoir, les femmes à leur ceinture, les hommes à leur boutonnière, celui-ci un œillet, celle-là une giroflée, quelques-unes enfin de ces cassolettes de parfum que la nature, en se réveillant, dispense aux habitants de la campagne avec son infatigable profusion, avec son inépuisable prodigalité. Un de ceux qui paraissait jouir le plus voluptueusement, sinon le plus bruyamment, de ce réveil de la nature, c'était un jeune homme, étendu de tout son long, les deux bras croisés au-dessus de sa tête, sur un crochet de commissionnaire, adossé à la muraille, entre la porte et la fenêtre d'un des cabarets dont la rue aux Fers était émaillée, et les yeux tournés du côté de la fontaine des Innocents. À voir ce jeune homme, habillé de velours de la tête aux pieds, ainsi nonchalamment étendu et paraissant aspirer par tous les pores les premiers rayons du soleil, avec ses grands yeux noirs, sa barbe noire, on l'eût pris pour un de ces voluptueux lazzaroni couchés au soleil qui dort le quai de Mergeline ou de Santa Lucia. Et cependant, en le regardant de plus près ou plus attentivement, celui qui aurait à première vue pris cette opinion de lui eut bien vite reconnu son erreur, et se fut repenti de l'avoir confondu, ne fût-ce qu'une seconde, avec ces insouciants napolitains dont le visage n'exprime que la paresse et la bestialité. Il suffisait en effet de jeter un coup d'œil sur la figure de ce beau jeune homme pour comprendre que ce n'était point là un commissionnaire pareil à ceux qui l'entouraient, un portefeuille vulgaire, une bête de somme enfin. Non, la beauté mâle de ce visage, l'intelligence de cette physionomie, la distinction de l'air, l'originalité du costume, tout révélait au premier coup d'œil le personnage que nos lecteurs ont déjà reconnu sans doute pour le mystérieux Salvator, pour le héros principal de notre livre. Salvator avait déjà fait depuis 7 heures du matin ses 2 ou 3 commissions, car les commissions ne lui manquaient pas, et il faut le dire, il recevait les ordres et les recommandations relatifs à son état avec la même politesse, nous dirons presque avec la même humilité, qu'eût pu le faire tout autre commissionnaire n'ayant pas les mêmes qualités que lui. Il est vrai qu'il accomplissait les missions dont il était chargé avec une bien autre intelligence qu'aucun de ses camarades. Était-ce pour cette raison toute morale ou pour une autre un peu plus physique que la clientèle de Salvator se composait presque exclusivement de femmes? Nous ne saurions le dire, mais nous laissons à nos lecteurs la liberté de se faire eux-mêmes une opinion là-dessus. Pour les passants et les gens à qui il importait peu de savoir ce qui s'agitait dans l'esprit ou dans le cœur de Salvator, Salvator regardait les détails de cette charmante fontaine qu'on ne songe même pas à regarder, tant ils nous sont familiers depuis notre enfance, ou bien encore Salvator se laissait aller à quelques-unes de ces rêveries qui isolent le rêveur de telle façon qu'il en arrive à être au milieu de la foule, si considérable que soit cette foule, parfaitement seul avec sa pensée. Mais pour nous qui le connaissons de vieille date, Salvator ne regardait pas la fontaine, Salvator ne rêvait pas, non, Salvator observait et écoutait. Salvator, en attendant quelque message qui le tira de son immobilité, Salvator, avec tout ce qui se passait à la portée de ses yeux et de ses oreilles, se composait un butin dans lequel, à un moment donné, il n'avait qu'à puiser pour en tirer l'escarboucle qui éblouissait tous les yeux et le faisait regarder comme un enchanteur. Et cependant, au milieu de tout cela, Salvator était plutôt encore l'homme du fait que l'homme de l'idée. D'habitude, et nous avons pu le voir procéder ainsi, il agissait au lieu de rêver, et quand il semblait rêver au lieu d'agir, c'est que, comme un machiniste habile, il préparait quelque changement de décoration, quelque truc inconnu, dans l'espèce de féerie qui s'échafaudait au fond de sa pensée. D'un autre côté, quoique inactif pour le moment, il lui eût été bien difficile de se livrer à la rêverie, même en supposant qu'il en eût le désir. En effet, il ne se passait pas 5 minutes sans que quelqu'un vînt l'accoster. « Vous êtes embarrassé ?»« Oui, adressez-vous à Monsieur Salvator. »« Où est-il ? Je le cherche. »« Le voilà. »« Ah, Monsieur Salvator !» Et alors, la personne embarrassée contait à Salvator la cause de son embarras. Et soit en droit, soit en médecine, soit en morale, soit en politique, Salvator avait toujours un conseil pour le procès, une recette pour la maladie, un avis pour la droiture, une lumière pour l'opinion. Si bien que la personne qui était venue consulter Salvator s'en allait éclairée ou soulagée, espérante ou croyant. Il était à la fois pour les habitants du quartier, pour les marchands et les marchands de la halle, et même pour les simples passants, un juge de paix, un expert, un prud'homme, un médecin du corps et de l'esprit, un redresseur de tort, un conseiller. Monsieur Salvator, c'était le Salomon de la halle, et il ne se faisait pas une affaire un peu importante sur laquelle on ne le consultât, comme il n'y avait point de discussion un peu sérieuse où on ne le prit pour arbitre. On entendait donc à toute minute retentir que ces deux mots « Monsieur Salvator, Monsieur Salvator !» Et si un passant curieux demandait, comme Jean-Robert au garçon du tapis franc, « Qui est-ce que Monsieur Salvator ?» On lui répondait, comme le garçon avait répondu à Jean-Robert, « Monsieur Salvator, pardieu, c'est Monsieur Salvator !» Rien de plus, il fallait que le curieux se contentât de cette réponse. Seulement, s'il insistait pour voir M. Salvator et que M. Salvator ne fût pas en course, on lui montrait M. Salvator, et presque toujours, le regard du questionneur surprenait le jeune homme pacifiant une querelle, conciliant un procès, ou faisant l'aumône à quelque mendiant estropié ou à quelque pauvre veuve portant un enfant dans ses bras et entraînant 3 ou 4 autres pendus à sa robe. Il en résultait qu'acheteur ou marchand, malade ou plaideur, bourgeois ou homme du peuple, chacun lui devait quelque chose, celui-là un conseil, celui-là une leçon, cet autre une aumône. Et l'avis de M. Salvator était toujours si bon, son jugement si droit, son opinion si juste, que plus d'une fois, le commissaire du quartier, empêtré dans les démêlés indémêlables de ses administrés, était venu sournoisement consulter le jeune homme ou l'avait fait venir ou avait simplement renvoyé les parties devant lui. Au moment où nous reprenons ce récit, c'est-à-dire le dimanche 23 mars 1827 à 10 heures du matin, Salvatore était seul, comme nous l'avons dit, mais non pas pour longtemps, comme nous allons le dire. En effet, de la porte du cabaret à la muraille duquel il était adossé, sortit un couple aux joues roses et fraîches, aux yeux brillants, aux lèvres entrouvertes, aux dents d'émail. Les deux jeunes gens, ou plutôt un jeune homme et une jeune fille, lumineux, étincelants tous les deux, comme le rayon du soleil qui les inonda au moment où ils parurent dans l'encadrement de la porte. Les yeux du jeune homme tombèrent sur Salvatore, qui ne pouvait le voir, tournant la tête de l'autre côté. « Ah, tiens, c'est Monsieur Salvatore !» dit le jeune homme avec un étonnement mêlé de joie. « Monsieur Salvatore ?» demanda la jeune fille. « Il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. » « Et tu peux même dire que tu as vu sa figure, princesse, vue ou entrevue. Il est vrai, pauvre enfant, que tu étais bien occupée ce jour-là et qu'on voit mal avec des yeux baignés de larmes. »« Ah oui, à Meudon, n'est-ce pas ?» dit la jeune fille. « Juste, à Meudon. » « Eh bien, mais, fit la jeune fille étonnée et à voix basse, qu'est-ce que Monsieur Salvatore ?»«
C'est un commissionnaire, comme tu vois. »«
Sais-tu qu'il a l'air très bien, ton commissionnaire ?»
Oh, sans compter qu'il est encore mieux qu'il n'en a l'air, repartit le jeune homme.
Et faisant un demi-tour à droite, de manière à se placer devant le commissionnaire, « Bonjour, Monsieur Salvatore, dit-il en lui tendant la main. » Salvatore se souleva à demi, comme un pacha qui donne audience, regarda celui qui le saluait, puis, sans hésitation, et comme un homme qui croit que son intelligence le fait l'égal de qui que ce soit au monde, prit la main qu'on lui présentait et la serra en disant « Bonjour, monsieur Ludovic ». C'était Ludovic, en effet, qui, sur la demande de la personne qui lui donnait le bras, était venu manger quelques douzaines d'huîtres dans le cabaret de la Coquille d'Or, lequel avait la réputation d'ouvrir les huîtres les plus franches et de déboucher le meilleur chablis de toute la halle. « Pardieu, monsieur Salvatore, reprit Ludovic, je ne suis point fâché de vous voir dans l'exercice de vos fonctions. Il ne me faut pas moins que cela, je vous le proteste, pour que je ne persiste pas à vous croire un prince déguisé. »
« Moi aussi, dit Salvatore, éludant le compliment, je suis aise de vous voir, d'abord parce que je vous vois, et que cela me fait plaisir de serrer la main à un homme de cœur et de talent, mais ensuite parce que vous me donnerez des nouvelles sérieuses de la pauvre Carmélite. Comment va-t-elle ?»
Ludovic fit un imperceptible mouvement d'épaule.
« Mieux, répondit-il.
« Mieux ne veut pas dire bien, observa Salvatore. » Ludovic étendit sa main dans le rayon de soleil qui éclairait la charmante tête de sa compagne.
« Voilà, j'espère qu'il achèvera de la remettre, dit-il. »«
Physiquement, oui, reprit Salvatore, mais moralement, combien d'années faudra-t-il à la pauvre enfant ?»«
Pour oublier ?»«
Oh, je ne dis pas cela, je n'ai pas besoin de la voir pour être persuadé qu'elle n'oubliera jamais. »«
Pour se consoler, alors ?»
« Vous savez, dit Salvatore, que les malheurs dont on se console le plus vite sont les malheurs irréparables. »«
Oui, je le sais bien, un poète l'a dit, et rien n'est éternel, pas même la douleur. »«
C'est l'avis du poète. Maintenant, quel est l'avis du médecin ?»«
L'avis du médecin, mon cher monsieur Salvatore, est qu'il ne faut pas que les esprits élevés méprisent et déprécient la douleur, comme font les organisations vulgaires. » La douleur est un des éléments de la nature, un des moyens de perfectionnement à l'usage de Dieu. Combien d'hommes, de poètes, d'artistes seraient restés inconnus sans une grande douleur ou une grande infirmité? Byron a eu le bonheur de naître boiteux et d'épouser une femme acariâtre. Byron doit non pas son génie, le génie vient directement du ciel, mais la mise au jour, l'efflorescence, l'épanouissement de ce génie à ses malheurs. Carmélite sera comme Byron, non pas un grand poète, mais une grande artiste, une Malibran, une Pasta, quelque chose de plus puissant peut-être, car elle aura vécu entre les femmes. Eût-elle été heureuse avec Colomban? Voilà ce que nul ne peut dire. Elle sera célèbre sans lui, voilà ce que j'affirme.
Mais en attendant, elle a auprès d'elle un médecin plus habile que moi.
Plus habile que vous, permettez-moi de douter, docteur, et quel est ce médecin?
Une jeune fille qui ne connaît pas un mot de médecine, fort heureusement, mais qui connaît
toutes ces angéliques paroles d'abnégation et de dévouement avec lesquelles on guérit les cœurs. Une de ses amies, élève de Saint-Denis Comelle, qu'on appelle le Fragola. Salvatore sourit et rougit à la fois en entendant parler ainsi de sa maîtresse bien-aimée. Quant à la jeune fille que Ludovic avait au bras, cet éloge pompeux d'une autre femme lui fit faire une moue qu'elle accompagna d'un pincement si solide que le médecin ne put retenir un cri. « Eh, mon Dieu, dit-il, qu'y a-t-il donc, Chantelila ?» À ce nom, Salvatore, qui n'avait accordé jusque-là qu'une médiocre attention à la compagne du jeune docteur, moitié par indifférence, moitié par discrétion, tourna la tête de son côté et, la regardant avec un œil curieux, quoique bienveillant, « Ah, dit-il, c'est vous qui êtes mademoiselle Chantelila ?»« Oui, monsieur, répondit la jeune fille, tout orgueilleuse de ce que son nom était connu du beau commissionnaire. « Vous me connaissez ?»« Je connais votre nom et vos titres, du moins. » « Ah, tu entends, princesse, vous connaissez son nom et ses titres? Comment les connaissez-vous » « Pour les avoir entendus célébrer par les vassaux de la princesse de Vanvres. »« Oui, dit Ludovic, c'est Camille qui l'avait baptisée ainsi. »« Camille Rosen, vous n'avez pas eu de ses nouvelles, princesse ?» demanda Salvatore. « Par ma foi, non, dit la jeune fille, je n'en ai pas eu et j'espère bien n'en pas avoir. »« Et pourquoi cela, fit Ludovic, crois-tu par hasard que je sois jaloux de lui ?» « Oh, monsieur, je sais bien que vous ne me faites point un pareil honneur. Ah, la comtesse du battoir avait bien raison. »« Que disait la comtesse du battoir ?» demanda Salvatore. « Elle disait ceci, « Ne te fie pas aux Anglais, ils sont tous mauvais. Ne te fie jamais aux Américains, ils sont tous... »« eh bien, princesse, vous allez brouiller la France avec les États de l'Union. »« Ah, c'est vrai, c'est moi qui oubliais la comtesse du battoir. »« Où est-elle ?» « Elle m'attend ou doit m'attendre à la barrière Saint-Jacques, où elle est allée panser les blessures de son oncle. « Allons, prenons un fiacre et conduis-moi là où tu m'as promis de me conduire en fiacre. « Ah oui, mais princesse, vous croyez donc que j'ai, comme vous, un apanage ? « Bon, quand on guérit des millionnaires, on doit rouler sur l'or. » En effet, monsieur Ludovic, il paraît que les habitants de Vanvres et du Mabedon sont sur le point d'édifier un temple à Esculape Sauveur. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, cher monsieur Salvatore, j'ai peur d'avoir rendu un mauvais service à l'humanité en tirant d'affaire ce digne monsieur Gérard. Il a un visage qui ne me revient pas du tout, et quand il y aurait de ce côté-là un admirable brigand caché sous la peau d'un honnête homme, cela ne m'étonnerait pas. Mais enfin, honnête homme ou non, il est sauvé ? Hélas, oui, c'est parfois un vilain métier que celui de médecin. « Voyons, sois franc, combien t'a-t-il payé les trois visites ?»« Princesse, comme j'ai à dessein oublié de laisser mon adresse et que je ne suis pas retourné chez M. Gérard depuis que j'ai eu la conviction qu'il était sauvé, c'est un compte encore à faire. »« Eh bien, donne-moi ta procuration et je m'en charge. »« Soit, plus tard. »« Quand cela ?»« Quand nous nous séparerons, ce sera mon cadeau d'adieu. »« C'est dit. Mais en attendant, voilà un fiacre qui passe. »« Hola, cocher !» Le cocher arrêta court, fit un tour à gauche et amena le véhicule à quatre pas du groupe. « Allons, dit Ludovic, il faut bien faire ce que tu veux, princesse. » Puis, se tournant vers Salvatore, « Au revoir, seigneur commissionnaire, hein, comme on dit dans les mille et une nuits, car j'en reviens à ma première idée. Décidément, vous êtes un prince déguisé. » Salvatore sourit. Les deux jeunes gens se serrèrent la main. Chantelila lança par-dessus son épaule une œillade meurtrière à Salvatore. Ludovic l'intercepta au passage. « Eh bien, princesse, dit-il avec une feinte colère. « Ah, ma foi, dit Chantelila, je ne sais pas ce que c'est de mentir. Je le trouve très joli, ce commissionnaire. Et si je ne t'avais pas juré fidélité pour 3 semaines, je sais bien quelle commission je lui donnerais. » « Où faut-il vous conduire, notre bourgeois ?» demanda le cocher. « Donnez vos ordres, princesse, dit Ludovic. « Porte Saint-Jacques !» cria Chantelila. Et le cocher partit dans la direction indiquée.